France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte, France Musique.
Alors, je suis Gérard Voulet, je suis violoniste, j'étais professeur au Conservatoire de Paris, je suis né en août 1938 et je suis le fils de Gaston Poulet qui était un chef d'orchestre bien connu.
Bonsoir, Gérard Poulet.
Bonsoir.
À l'âge de 10 ans, votre père vous fait rencontrer Furtwängler et Enesco et vous jouez devant eux.
Oui, c'est-à-dire que c'était en 48, alors ça. C'était lors du premier festival de Besançon, oui. Comme je vous disais, c'était la période où je jouais facilement.
Vous vous souvenez du répertoire que vous avez
oui,
joué ce
jour-là ? Oui, j'avais donc... fait un récital en privé chez des grands amis de mon père qui l'ont aidé d'ailleurs à fonder le festival. Lors de ce premier festival, Furtwängler a été invité. Il y avait Pierre Fournier, il y avait Julius Katchen qui est mort prématurément, qui était un grand talent, et il y avait Arthur Honegger et Enesco. Oui, Enesco, qui était considéré encore comme un violoniste fameux, un des plus merveilleux artistes, et d'ailleurs qui a aussi beaucoup coaché Yehudi Menuhin, qui commençait aussi une carrière mondiale. Donc, Enesco, tous ces personnages célèbres, et Edwin Fischer, il y avait aussi ce grand pianiste, Edwin Fischer. Ils ont accepté de venir en privé écouter ce jeune violoniste qui jouait un concerto de Haydn, pour commencer, le concerto de Mendelssohn, et puis Ballade polonaise de vieux temps, qui était un programme finalement pour un enfant de... c'était en 48, j'avais 10 ans. J'interprète donc le concerto de Haydn. Et après le concerto de Haydn, Enesco, spontanément, dit à mon père Gaston Poulet, qui m'accompagnait au piano, « Gaston, écoutez, soyez gentil, laissez-moi votre place, j'ai envie d'accompagner Gérard dans le concerto de Mendelssohn. » Bon, Enesco était une telle personnalité que ça allait de soi qu'il dit, mais bien sûr, quel honneur, quelle gentillesse de faire une chose comme celle-là. J'ai entendu Enesco commencer le concerto de Mendelssohn au piano et j'ai joué le concerto de cette façon-là. Je me souviens que j'ai été un peu bousculé dans ce concerto parce que le tempo ne correspondait pas avec ce que nous avions décidé avec mon père. Mais vous savez ce que peut penser un enfant de 10 ans à ce moment-là. C'est le monde d'un enfant n'est pas le même que le véritable monde. Alors après ça, naturellement, tout le monde a dit « Oh, c'est formidable !» Et puis tu te rends compte que tu as été accompagné, je réalisais mal, finalement, je ne réalisais pas très bien ce qui m'arrivait. Moi, c'est un petit peu par la suite, évidemment, que j'ai mieux appréhendé ce qui m'était arrivé.
L'année suivante, vous avez 11 ans, vous entrez au Conservatoire de Paris, vous en ressortez l'année
suivante. Non, pas l'année suivante, mais deux ans après, en 51.
Deux ans après.
Je suis resté au Conservatoire de 49 à 51. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est beaucoup trop peu, bien sûr.
Qu'est-ce qui a fait que vous y restiez aussi peu ?
J'ai appris des choses, mais bon, on a beaucoup trop flatté le petit violoniste que j'étais. J'aurais dû y rester au moins deux ou trois ans de plus.
Vous en ressortez pourtant avec un premier prix à l'unanimité, c'était
oui,
donc
c'est ça, que... oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous voulez sortir du Conservatoire de Paris avec un premier prix à l'unanimité à l'âge de... J'avais même pas 13 ans, vous comprenez, c'est grotesque.
Mais que faire après ?
Voilà !
Qu'est-ce qui s'ouvre à vous ? Vous avez des concerts avec votre père.
Oui, voilà, des concerts, mais c'est grotesque. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bien sûr que j'ai joué, bien sûr que j'ai assuré tous ces concerts. Mais je me suis retrouvé, au bout d'un moment, au lieu d'évoluer dans le bon sens, je me suis bloqué.
Vous avez comme joué devant, au Théâtre des Champs-Élysées, le concerto de Beethoven, oui, devant Vincent Auriol. Vous avez eu des moments...
Oui, ça c'était encore la bonne période, oui, où j'ai joué Mozart et Beethoven. En présence de Vincent Auriol. Oui, en exprimant ici des doutes sur cette façon de faire, bon, je suis arrivé à m'en tirer. Mais si j'avais pas connu Schering, je crois que j'aurais changé de métier.
Ah oui. Qu'est-ce que vous conseillez votre père et votre mère à l'époque ?
Ma mère, malheureusement, n'était plus en état de pouvoir dire quelque chose.
Elle n'a pas pu assister à vos concerts ?
Pauvre dame. Nous a quittés en 54 des suites d'une tuberculose qui l'a rongé depuis 45. Alors, bon, la pauvre, elle était ou pas là parce qu'elle était en sanatorium, mais elle était consciente que quelque chose n'allait pas. Mon père, à ce moment-là, ne voulait pas admettre que j'étais sur une mauvaise voie. Il pensait qu'il fallait que je travaille davantage dans sa direction. Voilà. Et là, un conflit quand même s'est installé entre lui et moi. Voilà. Parce que je ne voulais pas admettre de continuer dans cet état-là. Bon. Ni moralement, ni musicalement.
Quel était ce blocage dont vous parlez ?
Je ne savais pas. Je ne savais plus m'exprimer. Je ne savais plus m'exprimer. Bon, j'ai eu un premier prix Paganini.
À l'âge de 18 ans.
À 18 ans. J'ai assuré quelques concerts après, mais...
Sur le Guarnerius de Paganini, si j'ai bien lu.
Oui, j'ai joué sur le Guarnerius de Paganini. Bon, l'espace d'une soirée, j'ai joué un caprice de Paganini dessus, oui. J'étais très conscient que j'étais en train de sombrer, voilà.
France Musique, les grands entretiens de Gérard Poulet.
Finalement, j'étais très content de m'arrêter.
De partir d'Algérie.
Et de devenir, et de faire autre chose. Je suis content d'être soldat, je crois pas, mais content en tout cas d'arrêter ce cycle dans lequel je me sentais de plus en plus mal. Je suis allé en Algérie, voilà, je vous le dis, hein, je suis allé en Algérie.
Est-ce que...
Étant soldat en Algérie, j'ai quand même été membre de l'orchestre de France 5, qui était un orchestre de radio qui était là-bas, à la salle Borde d'Alger. J'étais au second violon, puis finalement ça me faisait comme une permission, je n'étais pas que soldat à ce moment-là. Bon, je gagnais quelques sous, donc quand Schering a été engagé, je me suis présenté à lui. Je faisais de la musique avec un pianiste qui était un de mes amis, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Maurice Blanchot, qui est là, c'est mort.
Et Schering avait joué quoi
avec... Le concerto de Brahms. Le concerto de Bach et le concerto de Brahms. Alors, il m'a entendu. Bon, c'était pas désastreux ce que j'ai fait, mais enfin, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Vous vous souvenez ce que vous avez joué pour lui?
Ah oui, oui, j'ai joué le mouvement perpétuel de Ries. J'ai joué aussi prélude et allegro de Kreisler, et puis une troisième mouvement du concerto de Mendelssohn. Voilà. Avec piano, bien sûr. Mm. Il m'a dit, écoutez, vous allez finir votre service militaire, et quand vous rentrerez en France, vous me téléphonez. On parlera. Je vous dirai ce qui vous manque.
Qu'est-ce que vous aviez aperçu dans le jeu de Schering ce jour-là, ce concert?
La construction. D'abord, cette technique imparable, cette justesse formidable, cette façon de s'exprimer depuis le grave jusqu'à l'aigu, ce rythme imparable, cette maîtrise absolue de l'instrument. Pouvant tout faire, Schering, c'était ça.
Si je comprends bien, lui-même, Schering s'était formé à plusieurs écoles. Quand on regarde son propre parcours à lui,
c'est Carl Flesch.
C'est l'école Carl Flesch.
Ah oui,
il s'était formé aussi à Paris.
Ça, c'était dès l'Allemagne, quand il a quitté sa Pologne natale.
Mais il n'avait
très jeune, il a travaillé sous la direction de Carl Flesch.
Il a effectivement travaillé avec Carl Flesch à Berlin.
Voilà.
Et il avait également été formé au conservatoire de Paris.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Il a appris la musique française sous la direction de Gabriel Bouillon et de Madeleine Bertelier.
C'est ça. Donc il était lui-même à la conjonction de plusieurs écoles, vous diriez, ou il était le...
Oh non, c'est pas à la conjonction de plusieurs écoles. Son école était véritablement pure, unique. C'est depuis la main gauche jusqu'à l'archet.
Mais dans l'arbre généalogique qu'on cherche à constituer, vous le placez dans quelle branche?
Alors, je ne dis pas que l'école franco-belge n'ait pas formé des grands violonistes, mais elle est imparfaite. Par exemple, la main gauche glisse beaucoup trop, les changements de position s'entendent...
Des glissandos en...
Oui, c'est ça, d'une façon exagérée. On entend les retours d'archet sans arrêt. On entend une justesse quelquefois précaire, quoi. On sent qu'il y a une fragilité, il manque quelque chose, il manque des éléments qui font que c'est là où l'école russe d'ailleurs va beaucoup plus loin dans la perfection.
Là, l'école Carflèche, c'est l'école également où s'étaient formés Ginette Neveu et Joseph Hassid.
C'est ça.
Et Schering qui vous transmet. Qu'est-ce qu'il vous transmet plus précisément ?
Schering ?
Pendant 10 ans, vous avez travaillé avec lui.
Oui, pendant 10 ans, peut-être même plus. Oui, c'est-à-dire que les autres années, je me faisais contrôler, on va dire. Voilà. Eh bien, ça a été long, mais d'abord, la position de la main gauche. La position du violon aussi, là sur l'épaule, la hauteur du bras droit.
Du bras de l'archet,
oui.
Qui a tendance à être près du corps, c'est ça,
dans
une certaine école franco-belge, qui,
alors,
que vous tenez plus haut désormais.
Bien sûr, la souplesse générale, le rapport avec la main gauche et l'archet étant complètement changé, ça veut dire que les quelques modifications qui m'avait obligé de comprendre, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que prévu. Peut-être qu'il fallait d'abord que je désapprenne le violon pour le réapprendre dans l'école que j'allais adopter. Finalement, il fallait d'abord défaire pour refaire après. Il avait fait des plans de travail qui étaient très très clairs et que j'ai suivis à la lettre. Voilà. Mais je me suis dit, j'ai pas le choix. Il faut que j'assume complètement cette chose-là et que j'aille jusqu'au bout de ce que me dit Schering. Et je vais le suivre à fond pendant quelques années. Alors ça m'a pris beaucoup de temps avant que je redevienne Gérard Poulet, c'est-à-dire avec mes propres qualités, mes propres réflexes, mon propre goût pour la musique, de façon à ce que ma personnalité reprenne ses droits.
Vous aviez l'impression de renouer avec le jeune Gérard Poulet qui était passionné.
Oui, tout à fait. Et voilà. Et petit à petit, je suis redevenu moi-même.
Vous vous souvenez par quelle œuvre il vous a fait reprendre pied dans le violon, si on peut parler de
Mozart. Je me rappelle aussi que au tout début, la première fois que j'ai eu une leçon avec lui, un cours avec lui, c'était le tri du diable de Tartini. Voilà. Et chaque fois que je le voyais jouer, c'était pour moi miraculeux. J'avais l'impression d'un précipitateur. Il prenait le violon et tout sortait comme miracle. Tout était fait, tout était juste. Et pas seulement l'œuvre que je lui présentais, mais quand il se servait d'un exemple, c'était ou du Bach, ou Stravinsky, ou Beethoven, ou une sonate de Brahms. C'était tout le répertoire. J'ai entendu sous ses doigts tout le répertoire, et qu'il connaissait par cœur. Thank you. c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'était quand même exceptionnel. Parler huit langues.
Vous le suiviez également en concert
Oui, bien sûr. Bon, et puis, il s'est aperçu, évidemment, que j'étais très, très accroché, oui, bien sûr, et que je voulais y arriver, ça, oui. Mais je me rappelle qu'il avait dit à Madeleine Vartelier, il avait dit, Gérard, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Il doutait. Bon, puis alors, ça m'a plutôt piqué. J'ai eu vraiment envie de le faire mentir. On allait voir ce qu'on allait voir. Parce que, au fond de moi, j'avais plein de choses que je ne pouvais pas sortir, que je ne pouvais pas dire, et j'attendais le moment où je serais capable de le faire. Mais j'avais certaines forces en moi que je ne montrais pas. Et lorsque je suis arrivé à les sortir de la boîte, alors là, je me suis mis à faire des progrès. Et les progrès, c'est simplement que ma personnalité s'est formée.
Ça demande du temps, parfois.
Ah bah oui, surtout que là, de ce point de vue-là, j'étais très lent.
Que vous refusez de suivre Galamian aux États-Unis.
Ah, j'ai pas refusé, non. Oui, c'est un moment donné dans ma vie, oui, j'ai eu un oncle qui s'appelait Vladimir Goldschmann, qui était un homme merveilleux, chef d'orchestre aussi, et un peu le concurrent de Gaston, mon père. Et Vladimir avait dit à Gaston, tu sais, il faudrait que ton fils en aille aux États-Unis. Il faudrait qu'il aille travailler là-bas, ça lui ferait plus grand bien. Et pourquoi pas à New York avec Galamian. Alors mon père, qui connaissait Galamian du temps où il était à Paris, n'avait pas d'admiration pour lui. Et je dis oh non, il lui a pas dit directement, mais à la maison, il disait il y a pas question que tu ailles là-bas travailler avec Galamian. Cet homme-là n'est pas l'homme qu'il te faut. J'aurais voulu, moi bien, soit aller travailler avec Galamian, soit même approcher Heifetz, qui était ma lumière. Mon amour absolu.
Qui était enseignant en Californie à cette époque.
Qui faisait des masterclass en Californie, oui, c'est ça. Alors là, ouais. Le son de Heifetz, moi, me bouleverse littéralement. Et me bouleverse encore, parce que quand j'entends sa sonorité, je suis encore ému aux larmes.
Est-ce que vous avez pu le voir en concert?
Oui, bien sûr, vous pensez quand j'avais... Quand j'avais 12, 13, 14 ans, là, il jouait presque chaque année, soit à l'opéra, oui, il y avait des récitals là, Heifetz à l'opéra, soit au Trocadéro. J'écoutais, je me mettais dans les tout premiers rangs pour voir arriver le grand seigneur, quoi, l'empereur, comme je l'appelais, l'empereur du violon.
Plus grand que Schering.
Schering était humain, voilà. Et la sonorité de Schering reste humaine. Heifetz m'emportait au ciel.
Est-ce que vous avez compris un jour comment il faisait?
Non, c'est magique. Les magiciens en comprennent pas. Même si on les regarde de près, ce qui sort du violon, c'est quelque chose de... Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Alors, je savais m'émerveiller de ça. Et j'ai éprouvé des joies tellement profondes que ça me tient en vie d'une façon extraordinaire.
Merci à toute l'équipe de ces grands entretiens, Sandrine Malon à l'enregistrement, Marie Le Peintre au mixage, Flora Sternadel et Christophe Dillis pour la préparation et Olivier Guérin à la réalisation. Les références discographiques, la réécoute et le podcast sont sur le site francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.